espèce de marginal. C'est un type qui était contre tout, contre le militaire, un truc écologique. Bon, je veux dire, les gens, ils aiment pas les gens marginaux, ils aiment bien les gens qui sont comme eux, comme qui sont des mathématiciens, bien rangés, etc.
Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Une grande traversée de Marie Durieux, réalisée par Gaël Gillon. Épisode 4, l'aventure intérieure.
Le doyen de la faculté de l'époque, on va dire que j'ai oublié son nom, connaît pas de Grothendieck et s'étonne qu'on lui propose, voire qu'on lui impose la candidature de Grothendieck sur un poste qui est libre en mathématiques à Montpellier. Et il veut prendre l'avis de collègues à lui pour savoir un peu ce que vaut Grothendieck, savoir si Grothendieck est digne de venir enseigner à l'Université de Montpellier. Donc ce doyen de Montpellier prend contact avec le doyen de l'Université de Princeton aux États-Unis et lui pose la question en lui disant est-ce que vous, par hasard, vous connaissez Grothendieck et qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un de valeur ou pas, quoi ? Et le doyen de Princeton aurait répondu en disant oui, je connais bien Grothendieck et je peux vous confirmer que c'est un génie des mathématiques. Au passage, je ne savais pas qu'il y avait une université à Montpellier.
Dans l'épisode précédent, Grothendieck est allé au bout de sa critique des sciences. Il a déserté le monde de la recherche et a quitté Paris, en quête d'autres horizons. Après quelques mois passés aux États-Unis, il obtient un poste à l'Université de Montpellier à la rentrée 1973. Il retourne là où tout a commencé, dans la fac de sa jeunesse, et tente l'expérience communautaire en milieu rural. Il a alors 45 ans, 5 enfants et un futur à construire. Il expérimente une nouvelle liberté, qui est aussi une nouvelle responsabilité, celle de changer, de se changer. Johanna Grothendieck, sa fille, nous raconte cette période.
Voilà, moi je suis passée très brièvement à cette période-là dans l'Hérault. Mon père était revenu des États-Unis avec sa compagne Justine, dont il a eu son dernier fils. Et il habitait dans la petite maison de Vilquin. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment une communauté, puisqu'il y avait une partie avec le projet agricole. Je pense que c'était de courte durée, cette expérience. Ça n'a pas duré longtemps. Finalement, mon père s'est retrouvé tout seul dans la maison de Vilquin avec sa femme qui attendait un bébé. Voilà, et moi j'ai fait un passage vraiment éclair. J'ai dû y rester peut-être un mois à peu près seulement. Ça devenait évident pour lui que la priorité, c'était absolument plus de faire de la recherche scientifique, mais de s'intéresser à des choses fondamentales comme ce qui nous nourrit tous, à savoir la Terre. Et du coup, de rechercher des installations en milieu rural, et si possible en groupe. Bon, c'était un peu dans l'air du temps à cette époque-là.
Conférence de Grothendieck au CERN, 1972.
Donc tout ce que nous pouvons faire, j'en suis persuadé, c'est que chacun dans notre propre sphère d'activité, dans notre propre milieu humain, nous essayons d'être un ferment de transformation dans la direction qui, au jugé, intuitivement, par notre intuition, nous semble la plus indiquée, en commençant par les rapports humains avec nos proches, les membres de notre famille, nos enfants, notre femme, nos amis, également nos collègues de travail. Je pense que ça, c'est une première transformation qui a cet avantage, j'en suis persuadé, d'être communicatif, de se communiquer des uns aux autres. Parmi, disons, les transformations à effectuer précisément, il y a, je crois, le dépassement de l'attitude de compétitivité entre personnes, le dépassement de l'attitude du désir de domination des uns par rapport aux autres, qui engendre d'autre part le désir de soumission à l'autorité. Je crois qu'on a là deux aspects de la même tendance. Et également, et peut-être surtout, l'établissement, disons, de la communication entre les personnes, qui est devenue extrêmement pauvre, je pense, dans notre civilisation. J'ai fait un peu le bilan de ma propre vie et des relations humaines que j'ai eues, et j'ai été frappé de constater à quel point la véritable communication était pauvre. Bon, j'ai eu un certain nombre de relations amoureuses dans ma vie, comme sans doute la plupart d'entre vous, et Pour ma part, par exemple, j'ai pris cette décision générale, c'est que je ne poursuivrai plus de relations amoureuses, par exemple, avec une femme, que dans la mesure où elle me semblerait être un moyen pour établir une communication plus profonde. Également, je peux vous dire que mes relations vis-à-vis de mes enfants ont changé, en ce sens que j'ai compris que dans beaucoup d'occasions, j'ai exercé sur eux une autorité assez arbitraire, disons dans les choses qui, en bonne conscience, en fait, étaient de leur propre ressort. Donc là, ce sont des choses qu'on peut modifier, et j'ai l'impression que ce type de modification, on peut se dire, en première vue, on se dit, en quoi sont-elles liées, disons, aux problèmes globaux, disons, de la survie? Eh bien, je suis convaincu, mais je ne peux pas le prouver, parce que rien d'important ne peut être prouvé. On peut simplement le ressentir, le deviner. Je suis convaincu qu'effectivement, ces changements dans les relations humaines vont être un facteur tout à fait déterminant, peut-être le plus important, dans les changements qui vont se faire d'un mode de civilisation vers un autre. Parce qu'encore une fois, il est maintenant devenu tout à fait clair pour moi que ces changements ne se feront pas par la vertu d'innovations techniques, de changements de structure. Les changements véritablement profonds qui vont se faire, c'est un changement dans les mentalités, dans la relation humaine.
La question du féminin revient beaucoup dans Récolte et Sommeil. Donc moi, personnellement, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que j'avais l'impression que d'un côté, il parlait à la fois de sa mère, de son ex-femme, de manière extrêmement critique ou suspicieuse. Et de l'autre, il y a des passages aussi où il dénonce le machisme de notre société dans Récolte et Sommeil. Et à d'autres endroits encore, il raconte que les femmes ont été, ou la femme a été la grande passion de sa vie aux côtés des mathématiques. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez raconter de Grothendieck sur son rapport aux femmes?
Il y a une terrible ambiguïté dans son rapport aux femmes. Et on peut dire par moments, on a envie de l'étrangler. Et il peut paraître horriblement misogyne. Mais ce qu'il dit, c'est que chacun de nous possède une nature fondamentale qui n'est pas forcément yang ou yin, et certainement pas, il ne dit jamais yang pour les hommes et yin pour les femmes, pas du tout, mais qui est partiellement yang, partiellement yin, peu importe, tout peut arriver.
Leila Schneps, mathématicienne et fondatrice du Grothendieck Circle.
La question n'est pas là, la question c'est de trahir sa véritable nature pour des raisons d'ego, pour des raisons de mode, pour des raisons de conformisme pour plaire à la société autour. Il dit que lui-même, il est très coupable d'avoir fait ça, qu'il a trahi pendant très longtemps, non pas en mathématiques, où il dit qu'il est toujours resté totalement fidèle à sa vraie nature qui est à dominante yin et féminin, mais il dit que s'il a pu rester aussi fidèle à lui-même, c'est parce que ni lui ni personne n'a jamais pensé que le côté féminin de son être irait se cacher dans les maths, qui sont peut-être une discipline masculine par excellence. Je ne sais pas si je suis d'accord, mais bon, mettons que c'est une impression commune. Mais en tous les cas, dans sa vie privée, il a forcé, il a trahi sa vraie personnalité, il a forcé sur le yang, il a adopter les valeurs de sa mère qui était super young, super macho, qui n'admirait que ça, et il voit ça comme une trahison de lui-même.
Quel genre d'éducation vous aviez à la maison?
Alors l'éducation, elle était plutôt dispensée par ma mère parce que mon père était plutôt absent au quotidien. On le voyait pas beaucoup, il était pas dans les mêmes horaires que nous. Il se levait quand nous on prenait le repas de midi à peu près, et on se croisait, on prenait souvent le repas du soir ensemble, et en fait c'est ma mère qui avait en charge tout cet aspect là à partir d'un âge très jeune, hein, pour moi qui suis l'aînée donc du couple de mes deux parents. Et ma mère, ils se sont connus en fait, mes deux parents, dans les cercles anarchistes, donc elle avait aussi une très forte notion de ce qu'était la liberté dans l'éducation.
Et dans Récolte et Sommeil, il parle très peu de ses enfants, enfin de vous, mais en même temps, quand il en parle, il fait un petit peu un constat d'échec sur le père qu'il a été.
On peut dire qu'il y avait de quoi, hein. Parce qu'il n'a pas été très présent. Je pense qu'il y a eu un moment où il y a eu une rupture assez importante une fissure interne entre mes parents. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus été vraiment investi. Alors qu'au début, dans mes très jeunes années, il était un père beaucoup plus présent, très affectueux, toujours partant pour aller faire une balade en mettant l'enfant dans son dos, etc. quoi. Et à partir du moment où il y a eu cette grosse difficulté, ce gros conflit entre mes parents, ben, je pense que l'univers mathématique a été pour lui un refuge, ici engouffré, et puis il n'y avait plus que ça qui comptait pour lui, quoi. Et c'est vrai que très tardivement, il s'est dit, de temps en temps, j'ai des échos par mes enfants, comme quoi j'ai fait des grosses erreurs, j'ai été un père abusif, j'ai imposé des choses que j'aurais pas dû imposer, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Donc il y a une période pendant laquelle il a fait une brève remise en question où il nous a demandé de témoigner de tout ça. Malheureusement, il l'a pas poursuivi sur la durée parce que c'est quelque chose qui peut pas se faire en un claquement de doigts. Une réparation sur toute une enfance, ça aurait demandé à être nourri et perpétué. C'est malheureusement ce qui n'a pas été le cas parce qu'il a été rattrapé par pas mal d'autres choses. Et bon, je crois qu'il le dit dans la Clé des songes, il a toujours trouvé les choses plus importantes que les gens.
Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous perceviez de son travail mathématique ?
Tout enfant, pas grand-chose, mais quand j'étais jeune adolescent, il nous a fait faire des travaux pratiques hein, sur les polyèdres réguliers, notamment l'icosaèdre, où on en a fabriqué, on en faisait des abat-jour. Il m'a appris comment on pouvait dessiner un icosaèdre à plat sur un papier, donc finalement comment on pouvait faire un planisphère, quoi, comment on peut développer un volume en 3D et l'aplatir plutôt en 2D. Il m'a appris des tas de choses comme ça.
Mathieu Grothendieck, fils d'Alexandre.
Et après, il pensait que j'avais un instinct phénoménal en mathématiques, chose que je redis complètement. Mais voilà, je crois qu'il aimait penser que ses enfants participaient du même génie que lui, mais ce n'était pas franchement le cas pour ma part. Mais il nous a vraiment, on va dire, intéressés et fait toucher, plus que toucher, ce qu'il pouvait y avoir de sublime dans les mathématiques, ce qu'il pouvait y avoir d'élégant, de vraiment séduisant dans les mathématiques.
Et alors, si c'était pas forcément les mathématiques, sur quel terrain d'entente vous vous retrouviez avec lui ?
La spiritualité, je dirais. La spiritualité, l'engagement qu'on a d'être aussi au monde et dans cette société, quoi. Je pense que malgré lui, parce qu'il m'a relativement peu élevé, mais il m'a énormément influencé, comme il a aussi influencé ma mère qui, elle, m'a élevé. Et pour finir par me dire un jour que il n'aurait jamais rêvé que son enfant, enfin que je devienne ce que j'étais, quoi, c'est-à-dire un alternatif relativement abouti. Et voilà, c'est ce qu'il aurait aimé que ses enfants soient, et c'est ce que j'étais devenu, et qu'il en était très fier, quoi. Alors, ça m'avait flatté le jour où il m'a dit ça. Pourtant, j'ai pas fait des grands. Voilà, j'ai pas laissé, comme lui, mon nom dans les tablettes de marbre. Sur les tablettes de marbre, plutôt, ouais. Il était très. Très admiratif, souvent de marginaux, de gens assez alternatifs qui savaient tout faire, qui savaient se débrouiller. Il était très admiratif de ces gens-là.
Est-ce que vous pouvez nous raconter l'époque où il découvre la méditation ? Qu'est-ce que ça change chez lui ?
On a découvert la méditation et à travers le bouddhisme quand il a rencontré ces moines japonais. Et il les a rencontrés suite à un grave accident qu'il a eu, où il a eu une fracture de la jambe. Et puis ça s'est refracturé, il a eu des complications. Et c'est, je pense, un ami qui l'a branché sur ses moines, qui lui ont vraiment apporté un bienfait, un bien-être remarquable, quoi. Parce que jusque-là, les rapports avec ma mère étaient terribles. Il mettait pas les pieds chez nous, il la vouvoyait, etc. Et du jour où il a rencontré ses moines, il est revenu une fois tout souriant avec un costard violet. Déjà, il s'est habillé coloré. Et ça a changé tout, complètement tout. Ses attitudes, ses intentions, ça l'a posé, ça... Complètement, c'est devenu quelqu'un de complètement différent. Je pense qu'il a eu un meilleur rapport avec lui-même, avec sa propre violence. C'était vraiment un bienfait. Après, ça l'a pas complètement transformé non plus, mais c'était quelqu'un d'assez impétueux et qui était surtout très très radical au niveau affectif. Il n'y avait pas de demi-mesure, il n'y avait pas de nuance.
Kunyomi, donc c'est le moine bouddhiste japonais pour lequel il y a eu ce retentissant procès au tribunal de Montpellier. Donc on voit là, mon père, il a une béquille à la main parce qu'il avait eu un accident de mobylette.
Et vous pouvez nous raconter un peu ce procès à Montpellier ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il était donc en relation avec un temple bouddhiste Nichirinite de Paris. Et comme il habitait à Vilquin, il y avait parfois des moines qui venaient lui rendre visite. Et celui-ci, c'était pas la première fois qu'il venait le voir. Évidemment, mon père lui avait jamais demandé ses papiers. Hein. Ça lui serait venu à l'esprit de personne. Hein. Et il se trouve qu'il avait un visa qui avait expiré. Et comme il était un peu quand même dans le collimateur, parce qu'il avait rué dans les brancards et qu'il n'était pas bien rangé dans les clous, politiquement parlant, eh bien, il a été le premier Français qui est tombé sous le coup de cette loi qui interdit de venir en aide, de quelque manière que ce soit, à un étranger en situation irrégulière. La même loi sous le coup de laquelle est tombé Cédric Herrou. C'est un honneur pour lui d'être le premier Français attaqué pour cette raison.
Afin de mobiliser l'opinion publique contre cette ordonnance de 1945 toujours en vigueur, Grothendieck écrit à des journaux, à des ministres, et décide de monter sur Paris à l'occasion d'un séminaire Bourbaki. Il souhaite avertir ses anciens collègues qu'il pense particulièrement sensibles au sort des étrangers en France. Quotidiennement, les mathématiciens français côtoient des professeurs et des étudiants étrangers qui rencontrent des problèmes avec leur titre de séjour. L'internationale des mathématiciens est-elle toujours une réalité ? Zogman Mebkout, présent à ce séminaire, nous raconte la scène.
Il voulait se défendre, il est monté à Paris, il a demandé à parler au séminaire Bourbaki. Donc on a annoncé que Grothendieck allait faire une conférence, une intervention. Et alors au début, la salle était pleine. Ils sont tous venus, en quelque sorte, ils voulaient voir Grothendieck parler. Donc, ils pensaient qu'il allait parler de mathématiques et... Alors il a parlé de son problème, de son problème avec la justice, qu'il était révolté, que parce que vous avez accueilli un étranger, que vous passez en justice, il était vraiment révolté. Donc il a parlé que de ça. Et quand il a terminé, au bout de 4 minutes, la scène était vide. Il restait 4 ou 5 personnes. Pour vous dire la distance entre lui et l'establishment. Ils ont décrété que ce type était fou.
...1977, tribunal correctionnel de Montpellier.
Monsieur le Président, messieurs les juges, je plaide coupable aujourd'hui du délit d'hospitalité pour lequel je suis poursuivi. Les faits qui me sont reprochés sont parfaitement conformes à la réalité. Je vous demande néanmoins, pour l'honneur de la justice française, de désavouer un texte de loi en contradiction flagrante avec le sens élémentaire de la justice qui est en chacun de nous, et de faire usage du pouvoir que vous détenez pour m'acquitter. Si vous estimez en votre âme et conscience devoir prononcer une condamnation, sachez qu'une simple peine de principe reviendrait à tromper des esprits et chercher à les rassurer. J'ai connu dans mon enfance pendant près de 2 ans les rigueurs des camps de concentration et, fort de cette expérience, l'homme mûr que je suis devenu peut envisager avec sérénité une peine de prison. Je suis assuré de pouvoir en tirer de nouvelles leçons. Si vous estimez devoir prononcer une condamnation, je vous demanderai qu'elle soit claire et sans équivoque, que ce soit une peine de prison ferme et la peine maximale.
La prise de distance de la communauté mathématique avec Grothendieck est consommée. S'il ne veut pas parler mathématiques, il n'est plus le bienvenu dans ces cercles autrefois familiers et accueillants. Au même moment, il traverse une période de profonde remise en question. Couple, parentalité, vie militante, projet communautaire, le bilan de ses échecs est lourd. Mais deux passions sont en train de le sauver. La méditation, nouvelle arrivée dans sa vie, et les mathématiques, encore et toujours.
Et je pense qu'il ne s'est jamais arrêté de faire de la recherche mathématique, parce que c'est comme un virus, quoi. C'est quelque chose qui n'a jamais pu laisser. Et il le faisait un petit peu, je dirais, presque avec culpabilité, parce qu'il ne devait pas être convaincu de l'utilité, on va dire, radicale de cette recherche, mais je pense qu'il ne s'est jamais arrêté. Il a toujours fait de la recherche. J'ai toujours vu faire ses petits schémas. J'ai toujours vu complètement concentré dans une espèce d'imprégnation assez unique quand il faisait des maths. C'était un truc... Il était complètement dedans, quoi, complètement pris. C'était presque une étreinte physique entre lui et la matière mathématique, je dirais. Quand il réfléchissait intensément... C'est un peu comme une machine. Il émettait un petit bruit comme ça. Aussi bien des fois quand on discutait, des fois quand il était dans une réflexion intense, il émettait un petit son comme ça, très spécifique. On savait que là, il allait sortir une phrase et une formule qui allait certainement...
C'est quelque chose que pas mal de mathématiciens... hommes m'ont dit dans ma longue vie de mathématicienne.
Leila Schneps.
Il y a une connexion évidente entre la sexualité et les mathématiques. Et il y a un mot-clé qui relie les deux. Le mot-clé, c'est le mot désir. Et je comprends. Il y a un tel désir quand on est vraiment impliqué à fond dans une recherche mathématique. C'est inimaginable. Il y a un désir qui peut devenir obsessionnel. Il y a une euphorie inouïe quand on découvre le résultat, la chose qu'on cherche à comprendre depuis très longtemps, souvent des mois, une année ou des années. J'ai eu moi-même cette sensation pas plus de deux ou trois fois dans ma vie d'avoir vraiment trouvé. Parce que souvent en maths, quand on fait de la recherche, on trouve autre chose que ce qu'on cherchait. C'est toujours agréable, c'est toujours bien. Mais d'avoir trouvé la chose, quand la lumière se fait, quand tous les morceaux du puzzle se mettent ensemble, on se dit mais j'y suis. Le tableau est complet. C'est indiciblement euphorique. Et c'est pour ça que les mathématiciens font ce qu'ils font. C'est vraiment pour ça, parce que sinon on le ferait pas. C'est ingrat comme travail. On peut travailler des années pour rater des trucs ou sans rien trouver. C'est dur. C'est jamais confortable. À aucun moment. On est poussé par un désir. Et oui, on dirait effectivement que je parle d'amour quand je dis ça. Maintenant, les hommes, ils ont beaucoup d'images que je n'aurais pas utilisées forcément moi-même, mais où il s'agit de pénétrer, de conquérir, je vous laisse imaginer le reste, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un monde de désir et d'assouvissement et de découverte qui se décrit avec le même vocabulaire que le vocabulaire de l'amour.
« En 1977, Grothendieck lance un petit séminaire qui n'a pas le prestige de ses exposés à l'IHES, mais qui lui permet de développer ses nouveaux intérêts mathématiques. En parallèle, il assure consciencieusement ses cours et invite ses étudiants à pique-niquer dans le parc autour de miches de pain qu'il leur apporte chaque semaine. Jean Malgoire, l'un de ses anciens élèves, nous fait visiter les lieux. Il nous amène dans la salle de thé du laboratoire de maths. L'éternel tableau noir est là, la machine à café qui ronronne aussi, et sur le coin d'une table traînent des fascicules du séminaire Bourbaki. Dans une vitrine, des objets géométriques par dizaines sont disposés. Des bouteilles de Klein, des rubans de Möbius et d'autres figures aux formes fascinantes.
C'est des objets justement qui intéressaient bien Grothendieck dans ces années-là, les polyèdres, des surfaces. C'est une bouteille de Klein qui a pas de bord, mais qui est l'intérieur et l'extérieur sont mélange. Donc c'est des objets, oui, tout à fait. Et c'était sa démarche. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il avait voulu prendre une direction tout à fait orthogonale à la sophistication des mathématiques qu'il avait développées pendant toutes ces décennies. Et au contraire, de prendre des objets tout simples. Celui qui l'a le plus fasciné, c'est celui-là, c'est l'icosaèdre. Voilà. Donc il a été pris comme, c'est moi qui avais proposé, comme symbole du labo. On voit l'icosaèdre, parce que cet objet-là, il a fasciné complètement Grothendieck.
Vous pouvez essayer de nous décrire un peu cet icosaèdre ? Alors,
l'icosaèdre, c'est un polyèdre platonicien. C'est-à-dire, c'est connu depuis les Grecs. Ils font partie de la série, ils sont tous là. Les cinq polyèdres réguliers, c'est-à-dire qui ont des faces qui sont toutes du même nombre de côtés. Lui, il a des faces qui sont des triangles. Et chaque sommet, il est bordé par cinq faces. Vous voyez, donc chaque sommet, il y a cinq faces. Chaque face est un triangle. Et donc, on peut regarder tous les sommets, toutes les faces. Et voilà. Donc ça, c'est un polyèdre qu'on dit régulier. Et derrière, il y a beaucoup de théories des groupes. Voilà. Donc, c'est un objet sur lequel Grothendieck a écrit beaucoup de pages. Il nous l'a enseigné. Mais rien que de les regarder et essayer de comprendre leur combinatoire, leur structure, et c'est passionnant. On peut y passer des semaines. Et Grothendieck nous a fait cours pendant des semaines sur cet objet-là.
Isolé dans son université de province, sa créativité repart avec une intensité rare. Il n'a pas renoncé à la recherche et décide de publier à nouveau des textes mathématiques. Ces derniers manuscrits intéressent peu ses anciens élèves de l'IHES. Mais de jeunes chercheurs, à partir des années 1990, en révéleront tout l'intérêt, comme Leila Schneps, qui se passionne pour une nouvelle notion développée à cette période par Grothendieck, les dessins d'enfants.
Alors, les dessins d'enfants, en fait, c'est une découverte que Grothendieck a faite qui a eu un effet incroyable sur lui. Il le dit lui-même, il dit « il n'y a peut-être jamais aucun fait mathématique qui l'a frappé aussi fort ». Il faut savoir que c'était quelqu'un qui, par sa nature de mathématicien, par son approche même, n'était pas très concret. Je tiens à dire ici quelque chose que lui a dit, que je trouve très important. Parce que beaucoup de mathématiciens ont, je ne sais pas si accusé est le bon mot, mais ont décrit Grothendieck comme le mathématicien de l'abstraction par excellence, quel que soit le point de départ, lui, il allait vers l'abstrait, vers la version la plus abstraite et vers l'abstraction en général. Et lui, dans Récolte et Semaille, il nie ça complètement. Et il dit, en fait, pour moi, l'abstraction n'était absolument pas un but, jamais. L'abstraction, pour moi, c'était comme la boîte de vitesse d'une voiture. Si les maths demandaient plus d'abstraction pour bien les comprendre, je changeais de vitesse. C'est tout. Et je prenais la vitesse qu'il fallait selon la route. Il avait néanmoins pas vraiment l'habitude de se pencher sur des exemples concrets. Et il s'est posé la question, est-ce que tous les dessins qu'on peut faire arrivent, tout dessin que pourrait faire un enfant sur un bout de papier, on demande juste que ce soit connexe, hein, qu'il n'y a pas plusieurs dessins, mais un seul, tout connexe. N'importe quel, il dit, mais n'importe quel enfant qui griffonne sur une feuille ou qui dessine un bonhomme, du moment où c'est connexe, est-ce que ça apparaît sur une vraie courbe algébrique? Mais précisément, à peu près à ce moment-là, dans ces mêmes années, il y a un mathématicien russe, Bielli, qui a démontré que c'était le cas, que tous les petits dessins arrivaient et correspondaient précisément à des courbes algébriques avec des équations qu'on pouvait écrire. Et ça, ça l'a complètement fasciné.
C'est à celui en toi qui sait être seul, à l'enfant, que je voudrais parler, et à personne d'autre. Il est loin souvent, l'enfant, je le sais bien. Il en a vu de toutes les couleurs et depuis belle lurette. Il s'est planqué Dieu sait où, et c'est pas facile souvent d'arriver jusqu'à lui. On jurerait qu'il est mort depuis toujours, qu'il n'a jamais existé plus tôt. Et pourtant, je suis sûr qu'il est là, quelque part, et bien en vie.
Récolte et semaille, autobiographie d'Alexandre Grothendieck. En 1986, Grothendieck achève un nouveau manuscrit de 600 pages. Denis-Charles Sisinski, mathématicien.
Donc j'ai travaillé sur... à partir d'un texte que Grothendieck a écrit dans les années 80, à peu près au moment où il a écrit « Récolte et semaille », qui s'appelle « La poursuite des champs ». Et donc une grande partie de ce texte, c'est une réflexion sur ce que c'est que la théorie de l'homotopie. La théorie de l'homotopie, c'est essayer de faire une théorie systématique de la forme, si on veut. Et donc le problème de faire une théorie systématique de la forme, c'est qu'une forme, ça ne change pas si on la perturbe un petit peu. Par exemple, si vous avez une forme dans l'espace, si je la tourne un tout petit peu, vous êtes censé reconnaître toujours que c'est la même forme. Donc, pour reconnaître la quintessence de la forme, il faut autoriser des petits mouvements, et en sachant que ces petits mouvements ne vont rien changer. Mais en même temps, si on a cette contrainte de faire une mathématique qui va se réduire à un calcul avec des formules mécaniques, donc très, par essence très rigides, donc autoriser des petits mouvements dans les formules très rigides, c'est compliqué. Et donc arriver à faire une théorie systématique qui arrive à exprimer ce genre d'idée, tout en restant mathématique au sens strict du terme, qui se ramène à un calcul, donc c'est quelque chose qui est le fruit d'une longue évolution. Et donc c'est ça la théorie de l'homotopie. Et donc c'est ça, une grande partie de la poursuite des champs est dévolue à essayer de comprendre comment essayer de rendre précis cette histoire-là, de qu'est-ce que c'est qu'une théorie de forme élémentaire qui permettrait de faire de la théorie de l'homotopie en général et de décrire toutes les formes possibles et imaginables.
Ces nouveaux intérêts mathématiques s'accompagnent d'un nouveau style d'écriture. Grothendieck apparaît comme écrivain. Un écrivain qui fait des mathématiques, à l'instar de Pascal.
Après 12 ans de silence, voici venir les œuvres de la maturité, portées par une vision et un style renouvelé. Le voyage de découverte mathématique, noté sur le vif au jour le jour, suscite au fil des pages une réflexion personnelle qui lui restitue sa dimension d'aventure passionnée, enracinée dans la vie.
À la poursuite des champs.
C'est une espèce de journal mathématique plutôt, c'est-à-dire qu'il écrit au jour le jour ce qui lui vient à l'esprit. Et aussi, il veut être honnête, donc il veut jamais retirer aucune erreur. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas reconnaître ses erreurs. Donc à chaque fois qu'il y a une erreur, au lieu de la rayer, il va créer une note de bas de page. Du coup, c'est un texte où on doit voir la genèse des idées telles qu'elles lui sont apparues au jour le jour. Et donc c'est radicalement différent de la pratique mathématique encore aujourd'hui, quoi. Personne ne fait ça.
Oui, il gomme pas les traces qu'il laisse.
Non.
Et il fait pareil dans Récolte et semaille, en fait, d'une certaine manière.
Et tout à fait, oui, parce que c'est une attitude qu'il ne fait pas seulement dans les mathématiques. Et donc dans Récolte et semaille, donc des fois, là, la différence, c'est que dans Récolte et semaille, il parle de la communauté mathématique, il parle de personnes. Et donc, ceci dit, des fois, il peut être très dur avec certaines personnes. Ça peut être lui-même ou d'autres gens, ça dépend. Et pareil, même s'il fait des erreurs, et même s'il est injuste, et des fois il peut être très méchant avec quelqu'un, et en fait, après coup, il va se rendre compte qu'il était soit trop dur, ou alors qu'en fait, il a réagi à quelque chose qui n'était pas, une information qui n'était pas exacte. Mais il ne va quand même pas retirer ses commentaires, etc. Il va juste rajouter une note de bas de page. Et donc l'idée, c'est que si on accepte de lire les textes mathématiques ou pas d'ailleurs, de Grothendieck post années 70, disons, il faut accepter ça, que ce qu'on lit, il ne faut pas le prendre comme argent comptant, il faut vraiment la totalité, il faut aller jusqu'au bout. Et peut-être que si on commente, il faudrait jouer le jeu et soi-même faire le journal de notre lecture et, en faisant des notes de bas de page, en disant ce jour-là, j'ai détesté Grothendieck, mais après j'ai compris, ou alors pas. Mais...
À À l'origine, Récolte et semailles devait être une introduction au manuscrit d'À la poursuite des champs. Mais le texte devient si long qu'il gagne son autonomie. Grothendieck est en train d'écrire son autobiographie. Un texte fleuve et hybride, un objet littéraire unique en son genre, dont vous avez entendu des extraits tout au long de cette série.
Et si tu me demandes quel est donc ce propos que je poursuis à longueur de 1000 pages, je répondrai, c'est de faire le récit, et par là même la découverte, de l'aventure intérieure qu'a été et qu'est ma vie. Il est vrai que le fait que je fasse partie des forts en maths n'est pas forcément une raison, et encore moins une bonne raison, pour t'intéresser à mon aventure particulière, ni le fait que j'ai eu des ennuis avec mes collègues après avoir changé de milieu et de style de vie. Il ne manque d'ailleurs pas de collègues, ni même d'amis, qui trouvent du plus grand ridicule d'étaler en public, comme ils disent, ses états d'âme. Un tel témoignage est précieux, qu'il vienne d'un homme de notoriété ou d'un petit employé sans avenir et chargé de famille ou d'un criminel de droit commun. Et si un tel récit a une vertu pour autrui, c'est avant tout de le reconfronter à lui-même à travers ce témoignage sans phare de l'expérience d'un autre. Aussi, pour le dire autrement, d'effacer peut-être en lui, et ne serait-ce que l'espace du temps que dure une lecture, ce mépris en lequel il tient sa propre aventure et cette âme qui en est le passager et le capitaine.
Dans Récolte et semailles, Grothendieck mène une enquête sur son passé de mathématicien et son héritage mathématique. Selon lui, un vent de mépris a soufflé sur son œuvre depuis son départ. Des notions qu'il pensait fructueuses auraient été délaissées, la paternité de certaines idées lui aurait été confisquée, notamment par son élève qui lui était le plus cher. Pierre Deligne. Mais les griefs vont également à Luc Illusi et ses élèves de l'IHES, qui auraient participé à l'enterrement prématuré de leur maître.
Ce qui s'est passé, c'est qu'il a bien compris pendant toutes ces années, 10 ans...
Zogman Mebkout, mathématicien, ancien élève de Grothendieck.
Ce qu'il appelle, il s'est rendu compte qu'il y avait une prise de distance avec lui. C'est-à-dire que les gens ont pris une distance avec lui. Donc il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bon, mais ce qu'il se disait, peut-être que c'est une prise de distance avec ma personnalité. Mais ensuite, il s'est mis donc à essayer de regarder ce qui s'écrivait. Et puis il découvre petit à petit ce qu'il appelle l'enterrement. Il m'a parlé de ça dans une lettre d'avril 84 où il dit « Depuis jeudi, au fil des jours, je commence progressivement à me rendre compte d'une sorte de vaste escroquerie à l'égard de mon œuvre. » Donc il a vraiment basculé. Et il est allé jusqu'au bout de cette bascule, jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça que c'est à ce moment-là que ça s'est produit, le basculement.
L'enterrement de mon œuvre et de ma modeste personne n'est pas l'entreprise d'un seul, ni d'un groupe strictement limité, tel celui de mes élèves d'avant mon départ ou celui de mes élèves cohomologistes, mais bien une entreprise collective au niveau de la congrégation tout entière, ou tout au moins au niveau de la partie de l'establishment mathématique qui avait été témoin et partie prenante de l'essor et de l'épanouissement de mon œuvre de géomètre entre 1955 et 1970. Mon départ en 1970 a été le signal, dans cette partie-là de la mathématique tout au moins, d'une réaction de rejet immédiat et draconien vis-à-vis des mathématiques grothendieckiennes.
Récolte et semailles, c'est une réponse à l'enterrement. Il était obsédé par l'enterrement. Il avait peur qu'il soit vraiment enterré, en quelque sorte. Et de fait, moi je pense, sincèrement, que s'il n'avait pas écrit Récolte et semailles, il aurait été enterré. Ça l'a bouleversé, il ne s'attendait pas à ça. Oui, je vous ai dit qu'ils prennent leur distance avec lui du point de vue personnel, mais qu'ils enterrent son œuvre alors qu'il est vivant, ça, il n'a pas supporté ça. Moi, je me souviens, dans les années 70, quand on parlait de Grothendieck, les gens rigolaient. Il y avait beaucoup de mépris, beaucoup de d'incompréhension. Donc c'était une réalité.
Et pourquoi les gens rigolaient ?
Parce qu'ils voyaient bien que c'était ils pensaient que c'était un individu pathologique, quelqu'un qui est venu de nulle part, quelqu'un bon, qui n'est pas raisonnable, etc., qui s'attaque à l'establishment en entier, etc. C'est pas raisonnable, donc ils ne prenaient pas ça au sérieux. Je pense que beaucoup de gens ne comprenaient pas ces mathématiques, et beaucoup de... Vous voyez, récolter ce maïs, ça fait, je ne sais pas, 1500 pages. Et sur les 1500 pages, il y a peut-être 1200 pages sur l'enterrement. C'est l'histoire de Grothendieck, comme je viens de vous la raconter, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très connue. Un homme aussi serein, qui est aussi exceptionnel, passe de la sérénité absolue à presque la folie. C'est une réalité. Et c'est ça qui me touche. Pourquoi Grothendieck a terminé sa vie comme ça? Pour lui, ce qui a compté, c'est sa blessure. Et on ne peut pas passer sous silence sa blessure.
Récolte et semaille est achevée en février 1986. Il l'envoie à plus d'une centaine de personnes, des amis, des anciens collègues, des connaissances. À la réception de l'autobiographie, Jean-Pierre Serre écrit à Grothendieck.
Une chose me frappe dans les textes que j'ai pu voir. Tu t'étonnes et tu t'indignes de ce que tes anciens élèves n'aient pas continué l'œuvre que tu avais entreprise et menée en grande partie à bien. Mais tu ne te poses pas la question la plus évidente, celle à laquelle tout lecteur s'attend à ce que tu répondes. Pourquoi toi, tu as abandonné l'œuvre en question? J'ai l'impression que, malgré ton énergie bien connue, tu es tout simplement fatigué de l'énorme travail que tu avais entrepris.
En 2022, soit 36 ans après, Gallimard publie enfin Récolte et semaille. Avant sa parution, le texte a déjà circulé entre beaucoup de mains, a été mis en ligne sur Internet et s'est constitué au fil des années un statut de texte culte. Odile Chatirishvili, docteur en littérature comparée, nous explique les ingrédients de ce succès.
Alors il y a à la fois le côté un peu gossip, enfin le règlement de compte qui est... à la fois compliqué à manipuler et en même temps qui a la particularité de ne pas être un discours polissé et lissé à la fois par les conventions sociales et puis par un travail éditorial. Donc il y a quelque chose d'assez franc du collier. Et c'est le fait que c'est un texte qui est très peu classique dans sa forme. Il montre ou il laisse deviner Grothendieck en train d'écrire. Ce qu'il cherche, c'est par l'écriture à comprendre quelque chose de lui-même et du monde et de la vie. Et pour moi, personnellement, indépendamment du fait d'être une chercheuse, c'est un témoignage d'un homme qui cherche et qui pense parfois avoir trouvé, mais continue toujours à chercher et continue à écrire. Et le fait que ce soit une œuvre qui, en fait, aurait pu possiblement continuer encore et encore à grandir et assez symptomatique et représentative de ça.
Johanna Grothendieck, fille d'Alexandre.
Il y a tous les passages, moi, qui m'ont plu dans Récoltes et semailles, qui sont des passages lumineux sur la création, la créativité, et qui sont absolument universels. Il n'y a absolument rien qui les confine à un domaine mathématique. Je pense que n'importe qui fait de la création, que ce soit musical, scénographique, n'importe quelle forme d'art... de science peut être inspirée par ces lignes. Elles sont complètement magnifiques. Elles sont vraies, elles sont profondes, elles sont senties. C'est pas un intellectualisme stérile, c'est vraiment un courant vivant qui circule, quoi. Et moi, ça, j'ai envie que ça se transmette. J'ai pas du tout envie que ça reste dans un coin enterré. C'est vraiment la parole de mon père dont je suis extrêmement fière.
C'est extraordinaire comme livre, à trois niveaux. C'est un chef-d'œuvre littéraire, à mon avis. C'est plein de choses vraies qui peuvent faire réfléchir n'importe qui sur lui-même. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et c'est ce que Grothendieck désirait. Ça m'a vraiment fait remettre en question plein de choses sur ma propre vie. Et finalement, c'est un portrait d'un homme. peut-être entre les lignes, peut-être sans que c'est ça qu'il voulait exactement, mais c'est un portrait psychologique extraordinaire d'un homme, y compris, ou disons autant parce qu'il dit que parce qu'il ne dit pas.
Est-ce que les critiques émises par Grothendieck dans Récolter Semailles et cette description de l'enterrement, qu'est-ce que vous en faites de ça?
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un enterrement vraiment, que il est injuste parfois. Il est pas, ce qu'il dit n'est pas complètement faux, non, il y a beaucoup de choses justes dans ce qu'il dit, mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas. C'est qu'il menait comme une espèce de train. Il était le locomotif, que les gens n'étaient pas capables de suivre sa grande idée. C'est quelque chose que je pense qu'il a peut-être fini par comprendre petit à petit quand il se critique lui-même de ne pas avoir écrit une grande vision. Il avait parlé de sa grande vision autour de lui. Et il croyait vraiment que tous ses étudiants et les gens à qui il parlait, et les gens qui écoutaient le séminaire, avaient tout compris, mais ils n'avaient pas tout compris. On ne pouvait pas leur demander de continuer son travail. C'était pas possible. Ils ont lâché des grands pans de son projet. Et je crois que c'est pas possible de les blâmer pour ça, parce que ils n'avaient pas sa vision. Ils ne pouvaient pas. C'était pas possible. Il était si convaincu d'avoir tout communiqué, de l'avoir laissé entre de bonnes mains. Mais petit à petit, il s'est rendu compte que c'était pas le cas, en fait. Par contre, je tiens à le dire parce que je crois que c'est assez important. Au niveau plus concret des citations, c'est absolument vrai qu'il n'a pas été cité assez, que son nom a disparu étrangement de beaucoup de textes, que l'excuse de tous ces auteurs et que tout le monde savait que c'était Grothendieck. Je comprends, ils étaient dans un monde où c'était évident que c'était Grothendieck, mais les générations d'après, ils vont pas savoir ça. Donc, pour moi, c'était pas bien. Il y a vraiment de nombreux textes, que je vais pas pointer du doigt, mais qui ont été publiés, où son nom n'est pas là, alors qu'on refait des choses qu'il avait fait. On introduit ses idées à lui, on les présente, et sans son nom. Ce qui s'est passé, et c'est quelque chose que je vois très bien, je comprends les deux côtés, je comprends ce qui s'est passé, c'est qu'il avait exercé une telle domination sur le monde mathématique, la société mathématique en France, qu'il y avait quand même, malgré tout, un énorme soupir de soulagement collectif quand il est parti. D'autres sujets ont commencé à respirer. Les systèmes dynamiques, les équations différentielles, des sujets qui avaient été vraiment perçus comme en dessous, comme moindres, comme moins importants, ont recommencé à vivre et à respirer. Alors, il y a un musicien qui m'a demandé une fois, il m'a dit, mais je ne comprends pas cette histoire de Grothendieck qui est parti à Montpellier, qui a disparu en Montpellier. Il dit, mais si Boulez avait quitté l'IRCAM et était parti dans un village dans le sud, il y a tous les jeunes musiciens de France qui l'auraient suivi pour se mettre à ses genoux et écouter les paroles qui tombaient de ses lèvres. Pourquoi est-ce que Grothendieck, il est parti comme ça à Montpellier et personne, pas un normalien qui va faire une thèse avec lui? Et oui, ça m'a frappé, oui, il a raison, c'est dingue. Parce qu'il y avait un backlash, comme on dit, parce qu'il y a eu une réaction de rejet très fort, parce qu'il avait trop dominé.
Si j'essaie de formuler par des mots ce que me livre le paysage devant moi, il vient ceci. Tout ce qui m'est venu, et souvent malvenu et mal accueilli, dans ma vie de mathématicien en ces dernières années, est récolte et message de ce que j'ai semé, au temps où je faisais partie du monde des mathématiciens. C'est un grand soulagement de voir confirmer, une nouvelle fois, que je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne suis pas meilleur que tel collègue ou ex-élève qui, il y a quelques jours encore, me coupait le souffle. Qu'on juge du poids dont me voilà débarrassé. C'est peut-être gratifiant d'une certaine façon de se croire meilleur que les autres, mais c'est aussi très fatigant. C'est un gaspillage d'énergie extraordinaire même, comme chaque fois qu'il s'agit de maintenir une fiction.
Ce qui est intéressant quand on fait des mathématiques, c'est que à chaque fois qu'on manipule un concept, en fait, on doit le repenser entièrement.
Denis-Charles Sissinski, mathématicien.
Et donc même si on fait un calcul avec, je sais pas, on fait 2 plus 2 égale 4, je sais pas quoi, si on est mathématicien, en gros, on doit repenser la nature du nombre 2, etc. Quoi. C'est pas, on repart de zéro, quoi. Et c'est pour ça que c'est attirant ce qu'ont fait les gens comme Bourbaki ou Grothendieck, le fait de faire toutes les mathématiques à partir de zéro. D'une certaine manière, ça correspond à une sorte d'idéal de pratique mathématique, c'est-à-dire que même quand on n'est pas un grand génie des mathématiques ou je sais pas quoi, si on fait des mathématiques, dans notre pratique personnelle, on est censé en fait partir de zéro. Alors on peut s'aider de l'aide de nos prédécesseurs, on peut tricher, on allait voir dans les livres, etc. Mais l'idée est qu'il faut, avoir la sensation de tout reconstruire, quoi. Et du coup, l'idée, c'est qu'on, et en faisant ça, on doit même se l'approprier complètement. Et donc, cette appropriation totale, en tout cas dans l'intimité de la pratique, c'est comme ça que je le vois, quoi. Et donc, d'une manière, une fois qu'on écrit un texte mathématique, ça doit être donné à la communauté mathématique pour que les autres personnes puissent faire ça, se réapproprier la chose complètement. Quitte même à le transformer en quelque chose d'encore plus différent après aussi, parce que l'idée du don aussi, c'est ça, c'est que c'est pas quelque chose qu'on doit vénérer et qui doit rester établi une fois pour toutes, quoi. Ce qu'on produit nous dépasse complètement, dans le sens que ce qui va être fait à partir de ce qu'on produit mathématiquement va nous dépasser complètement. C'est normal, en fait.
Avant de prendre sa retraite en 1988, Grothendieck refuse le prix Crawford qui lui a été décerné conjointement avec son ancien élève, Pierre Deligne.
Je suis persuadé que la seule épreuve décisive pour la fécondité d'idées ou d'une vision nouvelle est celle du temps. La fécondité se reconnaît à la progéniture et non par les honneurs.
Il quitte le monde académique de la même manière qu'il y était entré, en outsider solitaire. Mais son départ ne marque pas la fin de son travail intellectuel. Laurent Laforgue, mathématicien, nous explique les contours d'une nouvelle philosophie développée par Grothendieck à cette époque dans un texte intitulé « La clé des songes ».
Grothendieck distingue différents niveaux de vérité. Le degré zéro de la vérité, enfin qui est indispensable, mais qui est seulement le degré zéro, c'est l'exactitude. Mais il y a d'autres niveaux de vérité plus élevés. Et le plus élevé de tous, le critère ultime de la vérité, c'est la fécondité. C'est-à-dire un résultat mathématique atteint, en quelque sorte, le degré suprême de la vérité, s'il se révèle fécond, s'il en engendre d'autres. Et plus encore que les résultats, ce qui peut être fécond, ce sont les notions, les concepts. On introduit un nouveau mot, je sais pas, comme par exemple Galois avait fait au XIXe siècle avec le mot « groupe », et ce mot, aujourd'hui, se retrouve partout en mathématiques et en physique, avec une fécondité incroyable. Donc il a atteint le degré le plus élevé de la vérité. Mais c'est aussi, si on y prête attention, un texte d'un grand intérêt philosophique. C'est-à-dire, sans que Grothendieck le dise explicitement à aucun moment, par exemple, ce texte contient une philosophie de la liberté. Pour Grothendieck, la liberté n'est pas principalement une liberté de choix. La liberté humaine se réalise justement dans la créativité. Et la créativité se met en œuvre sur un fond de passivité, c'est-à-dire de réceptivité. Ce qui demande de faire silence en soi, le plus grand reproche qu'il a vis-à-vis du monde moderne, finalement, c'est que c'est un monde qui est rempli de bruit, qui empêche d'écouter les voix de la vérité. Plus ces voix ont à dire des vérités importantes, plus elles sont basses, jusqu'à ne pas pouvoir les entendre à cause du bruit. Et d'abord d'un bruit qui est intérieur, du bruit que l'on fait soi-même. Et donc la liberté de Grothendieck, c'est une liberté qui se réalise dans la création, mais une création qui, en fait, ne vient pas de nous. Ou alors, juste, on peut y contribuer un peu. Les choses, ce n'est pas nous qui les créons. Mais on les nomme. On leur donne des noms. Et c'est en leur donnant des noms qu'on les voit. C'est comme cela que s'exerce la liberté humaine.
De nos jours, le bon Dieu, il a passé de mode. Mais le cirque macabre tourne aussi fort que jamais. Les prêtres et les poètes font toujours leur boulot de croque-mort, sous la houlette alerte des généraux, des rois, des présidents, des papes, tandis que la science, alias l'honneur de l'esprit humain, toujours aussi sublime et aussi désintéressée, fournit les moyens grandioses et impeccables des méga-massacres perfectionnés électroniques, chimiques, biologiques, atomiques et à neutrons sur des charniers d'aujourd'hui et demain. Seul Dieu se tait. Et quand il parle, c'est à voix si basse que personne jamais ne l'entend.
Début juillet 90, il m'appelle par téléphone et il me dit « Ah, voilà, je voudrais m'alléger, je vais partir et je voudrais m'alléger de mes bouquins. Et est-ce que tu accepterais de récupérer mes bouquins ?»
Jean Malgoire, mathématicien, ancien étudiant et ami de Grothendieck.
Et donc, j'arrive aux Zomètes, dans son petit cabanon au milieu des vignes, là. Il était très exalté. Il était, je pense, dans une forme d'exaltation mystique. Il m'a dit, j'ai brûlé tout ce qui n'était pas mathématique, je l'ai brûlé là, dans ce bidon. Et par contre, j'ai gardé tout ce qui était mathématique pour toi.
Mais vous avez compris pourquoi il a tout quitté en 91 ?
Quelque part, il a voulu disparaître des radars. Il a voulu dire, mais il a eu une espèce d'envie de solitude, de grande solitude. Et ce que je pense n'était pas une bonne idée du tout. Parce que je ne crois pas que beaucoup de gens sont capables de vivre de manière équilibrée dans une solitude assez radicale. Et donc, il a décidé de quitter carrément la région et d'aller à un endroit où on ne ferait même pas suivre son courrier. Il m'a dit à l'université, tu renvoies le courrier, tu ne fais plus suivre le courrier. Voilà. Donc il a cherché à avoir un isolement vraiment radical.
Donc vous n'aviez pas son adresse ?
Non, il ne me l'a même pas donné son adresse.
Dans le prochain épisode, nous irons à la recherche d'Alexandre Grothendieck, qui a méthodiquement organisé sa disparition. Personne ne sait où il se trouve. Beaucoup de personnes le cherchent. On le dit alors fou, mystique, obsédé par la question du mal sur Terre. L'aventure intérieure. C'était le quatrième épisode de La Grande Traversée, Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Avec Johanna Grothendieck, Mathieu Grothendieck, Leila Schneps, Zogman Mepkout, Jean Malgoire, Denis-Charles Sissinski, Odile Chatirichvili, Laurent Laforgue. Les extraits de textes de Grothendieck et de Jean-Pierre Serre sont lus par Jean-Christophe Quenon et Daniel Kenningsberg. Prise de son, Martin Troidec, Christophe Papon, Pierre Henry et Antoine Viossa. Mixage, Pierrick Charles. Documentation INA, Isabelle Fort-Rendu. Coordination, Christine Bernard. Merci à Georges Matignotis, Sophie Kukoyanis, Félix Loubaton et les enfants d'Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck, légende rebelle des mathématiques. Une grande traversée de Marie Durieux, réalisée par Gaël Gillon. Me parece un